Donc voilà, contexte de la Seine-Saint-Denis, donc une évolution effectivement en termes d'urbanisation intense sur le 19e, 20e siècle, avec quand même au fur et à mesure du temps aussi une prise de conscience sur l'importance de la nature et de ce besoin de nature pour les habitants du département. Et donc une progression aussi de construction d'espaces verts, parce que vraiment tout a été... Il y a très peu de reliquats de nature, on va dire. C'est majoritairement, ce sont que des espaces verts qui ont été recréés. Donc au fur et à mesure des années, et donc où aujourd'hui, enfin, on est parti voilà, de 0,84 mètres carrés par habitant, et aujourd'hui on est autour de 12 mètres carrés. Donc voilà, il y a vraiment eu une progression, une volonté politique d'augmenter ces espaces de nature dans le département. Donc parallèlement à ça, il y a eu aussi tous ces espaces verts qu'il fallait quand même gérer. Donc au départ, on y allait de façon très empirique, on ne savait pas trop. Donc en gros, il y avait l'usager qui se promenait dans ces parcs et qui se disait il y a peut-être cette espèce-là qui est un peu bizarre, un peu gênante. Elle nous gêne, donc il faudrait peut-être faire quelque chose par rapport à cette espèce-là. Donc c'est vrai qu'au départ, les gestionnaires ne se posaient pas trop de questions. Ils disaient il y a une demande de l'usager, on va y répondre. Et généralement, c'était des choses assez radicales. Et puis dans les années 90, il y a eu les associations naturalistes qui ont commencé aussi à se balader un petit peu dans les parcs et qui se sont rendus compte d'une richesse, qu'il y avait des choses intéressantes et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et donc petit à petit, il y a eu comme ça un peu des appels de ces associations et au fur et à mesure du temps, il y a eu des partenariats qui se sont créés et on s'est rapproché effectivement aussi de tout le contexte scientifique avec la proximité du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui est quand même un avantage pour nous, qui a créé effectivement des partenariats et dont la création de cet observatoire en 2005. Et par rapport à tous ces états des lieux, ces inventaires, toutes ces données faune, flore qu'on a pu récolter, ça nous a permis aussi d'être classés site Natura 2000. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est en termes de législation. Donc c'est réglementation européenne en fait. Et en gros, c'est du fait de la présence de certains oiseaux qui permet en fait de classer ces sites avec donc une gestion particulière où on ne peut pas faire n'importe quoi. Et même s'il n'y a pas forcément d'opposition par rapport à de la réglementation stricte et dure, c'est quand même un document d'objectif qui doit être mis en œuvre. C'est vraiment des choses à long terme pour se dire, on gère ces espaces en fonction de la richesse qui est présente et donc pas n'importe comment. Donc voilà ces sites. Donc la particularité de ce site Natura 2000, il y en a quand même très peu en contexte urbain. Et généralement, le site est fait sur un même espace, et pas comme ça éclaté en plusieurs sites. Donc c'est aussi cette particularité en Seine-Saint-Denis, c'est qu'en fait vous avez 14 espaces qui sont soit des parcs, soit des forêts, qui appartiennent pas tous au département. Donc vous avez aussi des propriétaires qui sont des communes, qui sont des intercommunalités, qui sont la région Île-de-France. Donc il y a vraiment de nombreux partenariats et c'est vraiment aussi quelque chose d'un peu... après dans les autres contextes aussi Natura 2000 ruraux, c'est aussi beaucoup de propriétaires privés. Il y a des acteurs vraiment multiples. Voilà, mais là, c'est le côté un peu éclaté de se dire, on a ces espaces-là et comment on va trouver une cohérence et pour les gérer aussi avec tous ensemble. Par rapport vraiment à l'observatoire donc, où je travaille, donc on a vraiment plusieurs objectifs. Et en gros, l'objectif, c'est de se dire, la nature, elle est importante. Et il faut voir comment on peut faire pour l'inclure dans tout ce qui est projet d'aménagement, autant dans les sites qui sont déjà prédéfinis pour tels les parcs, par exemple, où là, de fait, on sait qu'il y a de la nature. Mais il y a aussi tous les autres sites qui sont plutôt des sites relais, où on se dit, il y a aussi des choses à faire, et tous les endroits qui sont en devenir, les constructions, l'aménagement, se dire, il y a peut-être des choses où on peut introduire un peu de la nature, ou penser les choses un peu différemment pour impacter un petit peu sur notre contexte. Et aussi tout le côté espace privé, où là, on n'a pas forcément de clé d'entrée, mais où il faut essayer de trouver un moyen pour toucher les habitants et leur dire, il y a aussi une importance à préserver cette nature. Donc nous, notre rôle au niveau de l'observatoire, c'est d'être l'interface entre différents métiers, corps de métier, on va dire. Il y a d'un côté tout ce qui est milieu scientifique avec les chercheurs, et puis il y a tous les acteurs du territoire qui sont là et qui peuvent faire des choses vraiment sur le territoire pour améliorer la préservation de la biodiversité sur le site, et puis l'enjeu aussi politique avec les différentes instances décisionnaires, et puis la population qui est là et qui peut faire émerger aussi des besoins et auxquels les politiques se doivent aussi de répondre. Ça, je vais passer vite fait parce que j'en parle après. Mais en gros, on a établi un document cadre qui s'appelle une charte où en gros, on explique dedans comment on fonctionne, comment on est organisé et quel est pourquoi il est intéressant d'appartenir à l'observatoire, d'adhérer quand on est une commune, quand on est un gestionnaire d'espace vert, quand on est un aménageur ou un organisme de recherche, ou, enfin voilà, différentes structures. Donc voilà un petit peu le schéma des différents pôles avec lesquels on travaille. Donc en gros, au centre, vous avez une structure coordinatrice, donc c'est nous, les chargés de mission au sein du Conseil général et de la direction des espaces verts. Donc on est 4 personnes dans cette structure. Et en fait, on fait vivre un peu le tout, on anime un peu ce réseau. Donc d'un côté, on a le comité scientifique, où on a à peu près 13 experts qui sont de différents milieux. Donc on a autant des écologues qui sont spécialistes par groupe taxonomique, donc vous allez avoir l'expert sur les oiseaux, l'expert sur les amphibiens reptiles, ce genre de choses, et puis des experts plus transversaux sur l'écologie urbaine, les milieux aquatiques, sur aussi tout ce qui est sociologie, anthropologie, et aussi des gens sur aussi le côté jeu d'acteurs entre les différents publics. Ça aussi, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Le comité de suivi, bah là, c'est vraiment les acteurs du territoire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est gestionnaire, association naturaliste, tous les gens qui sont sur le terrain et qui voient un peu ce qui se passe et qui peuvent vraiment avoir une action sur le terrain. On s'entoure aussi d'un réseau de professionnels. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans ces thématiques-là, mais en dehors du contexte de la Seine-Saint-Denis, que ce soit au niveau régional, national voire international, avec des réseaux tels que l'Union internationale de la conservation pour la conservation de la nature, des grands, on va dire, réseaux de collectivités en Europe, le laboratoire régional de suivi de la faune sauvage, ça j'en parlerai tout à l'heure, le RZ, donc qui est une structure interdépartementale qui suit aussi certaines zoonoses par rapport à voilà des transmissions de maladies homme-animal. Et puis aussi des réseaux plus techniques tels que Plantes et Cités. Et bien sûr, l'habitant, parce que tout ce qu'on fait, on est quand même service public. Et le but, c'est de montrer à voir aux habitants la richesse de notre patrimoine et pourquoi on fait ça. Et en gros, où passe aussi l'argent public, c'est important. Donc au niveau des missions en interne, donc on est structuré en 3 pôles. Donc le pôle amélioration de la connaissance, où là en gros on amasse un peu toutes les données écologiques qu'on a sur le territoire. Le pôle conseil en aménagement et gestion, là en gros c'est ces données qu'on va analyser et qu'on va pouvoir produire pour pouvoir donner des billes aux acteurs de terrain. Et puis le côté médiation communication, où là on essaie de toucher en gros les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc au niveau du premier pôle, donc la partie recensement de la biodiversité, donc c'est vrai qu'au départ on était parti un peu sur on va tout identifier, on va regarder un peu à droite à gauche sans vraiment avoir de suivi très régulier, de choses comme ça. Donc on avait une base de données avec plein de données d'inventaire. On a vu à tel endroit telle espèce, mais en gros, vu que c'était pas standardisé, on avait beaucoup de mal à analyser ces données, à comparer ces données parce qu'elles n'étaient pas comparables. Donc l'idée, c'est depuis 2007 d'essayer vraiment de structurer les choses et de se dire on va arriver vraiment à des données, à des protocoles, à des choses bien carrées pour pouvoir justement mesurer mieux la biodiversité, avoir une évaluation de cette biodiversité et voir comment elle évolue dans le temps. Et en gros, ceux qui sont producteurs de données, c'est les scientifiques, les associations naturalistes qui sont sur le terrain, les bureaux d'études qui sont mandatés généralement par les communes lorsqu'elles ont des projets, elles ont un diagnostic écologique à faire parce qu'elles ont un aménagement à faire, et aussi les gestionnaires sur site qui font aussi comme ça une surveillance lors de leur gestion sur le terrain. Donc voilà un peu un type de rendu par rapport à un inventaire exhaustif qui a été fait sur les habitats. Donc là, en gros, c'est le conservatoire botanique du bassin parisien qui a crapahuté l'ensemble du département, donc plus de 200 mètres carrés. Sur le département. Et puis, il a inventorié tous les espaces dits naturels et semi-naturels de plus de 600 mètres carrés. Donc ça a été 2-3 années d'études où il est allé sur le terrain et où il a pu qualifier comme ça un peu les sites par type d'habitat, pour nous donner aussi de l'information sur ce qu'on avait chez nous. Ensuite, il y a les autres suivis qui sont faits par groupe taxonomique, les oiseaux, les papillons, l'herpétofaune, enfin, il y a différents sites, en disant on fait par catégorie parce que vous avez des spécialistes par catégorie. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir comparer en mettant ces couches les unes sur les autres et en pouvant pouvoir justement dégager derrière des enjeux à l'échelle du département. Donc au niveau des données, sur la centralisation de ces données, ça nous a fait permettre de voir qu'on avait près de 2500 espèces en Seine-Saint-Denis, donc c'est pas négligeable, avec des données d'observation qui augmentent au fur et à mesure des années, mais qui augmentent moins vite que ce qu'on avait au départ, vu que maintenant on est vraiment sur des systèmes de protocoles bien standardisés qui sont faits tous les ans de façon bien, bien stricte. Du coup, on arrive sur des données plus de qualité, mais peut-être en un peu moins grand nombre. Voilà. Après, sur les groupes qui sont les plus sur lesquels on a eu la plus grande pression d'observation, ça a été vraiment la flore et les oiseaux jusqu'à présent, et les habitats, parce qu'il y a vraiment eu les premiers enjeux, sachant que pour les oiseaux, c'est le groupe qui nous a permis d'être site Natura 2000, donc c'est là-dessus qu'il y a eu quand même un enjeu très fort au début des années 90. Voilà. Ensuite, on collabore par rapport à des programmes de recherche. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre, tout le monde parle de trame verte et bleue, concrètement, comment ça fonctionne en termes de fonctionnalité des écosystèmes, en termes de déplacement d'espèces. Se dire qu'on est dans le contexte d'une trame urbaine, voilà, et se dire comment, au sein de cette matrice urbaine, les espèces se déplacent, quelles sont les potentialités et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer un peu ces barrières, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est encore en cours. Hein, donc c'est la carte à droite qui nous a été présentée en fin d'année 2010, où en gros, ça nous montre en gros les zones de connexion et surtout les grandes barrières, a priori, par rapport à des... Là, c'était sur le cas de la flore. Donc après, il y a tout à faire si on veut continuer sur les autres groupes taxonomiques, de voir sur les oiseaux, de voir sur les amphibiens, parce que les contraintes, les barrières écologiques, c'est pas du tout les mêmes, parce que leurs dispersions sont différentes. Les oiseaux volent, donc forcément, ils peuvent aller plus loin, alors que votre crapaud, il va faire quelques mètres, mais au pire, un kilomètre, mais voilà, il va pas aller très très loin. Donc les critères aussi sont différents. Et la carte de gauche, en fait, on a fait une expérimentation sur le déplacement des oiseaux. Et en gros, l'idée c'était de voir comment ils allaient se servir en fait de la matrice urbaine et surtout des éléments verts pour leur déplacement. Donc savoir si en gros les aires d'alignement étaient intéressantes pour les oiseaux parce que c'était un lieu par exemple de halte qui leur permettait de voir un peu mieux leur environnement et de savoir comment ils allaient se déplacer et où ils allaient aller. Et de voir comme ça qu'il y avait des zones qui étaient moins favorables à leur déplacement et d'autres qui l'étaient plus. Après, ça a été extrapolé à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, mais c'est pas une carte à prendre comme ça en se disant que le nord c'est forcément hyper négatif, quoi, puisque le rouge représente les barrières. Mais c'est des expérimentations comme ça qui sont testées. Et ensuite, on est en cours aussi sur une thèse sur tout ce qui est relations homme-nature, donc avec une sociologue. Et l'idée, c'est de voir quels sont les modes de relations entre l'homme et la nature. Donc ça, c'est basé aussi sur des enquêtes semi-directives. Et puis d'un questionnaire avec des habitants, où en gros, avec un même questionnaire, on allait dans différents sites pour voir aussi comment évoluaient les réponses. Donc on allait chez les gens. Et là, il y avait différentes questions qui leur étaient posées sur la nature, sur la biodiversité, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Et puis après, on demandait à la personne de nous emmener dans un espace de nature, comme ça on voyait en gros s'il y avait un lien entre ce qu'elle disait et ce que vraiment elle ressentait en termes de perception de nature. Et nous, on les emmenait dans un espace vert. Et en fonction, il y avait comme ça des moyens de voir si vraiment montrer que les modes de relation changeaient aussi en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et de changer un petit peu cette relation. On a l'impression qu'en gros, on fonctionne par acteur en se disant, en gros, l'écologue, il va avoir tel avis ou telle réflexion. L'architecte, il va penser à ça, il va avoir telle information, il va dire ce genre de choses. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a chacun des modes de relation un peu diverses dans une même personne, que ce soit l'esthétisme, le sensoriel, l'utilitariste, le scientifique. Enfin, voilà, on a tous un petit peu de chaque relation. Et c'est toujours difficile parce que du coup, les messages qu'on veut faire passer pour montrer que c'est important de préserver la nature, il n'y a pas qu'une seule façon de faire passer le message, mais il y a différentes façons à tester. Ensuite, sur le deuxième pôle, donc tout ce qui est conseil en aménagement et en gestion, c'est de se dire, en fait, nous, on parle de gestion harmonique. Alors, dans les termes un peu plus de gestion d'écologie, on parle de gestion différenciée. Enfin, voilà, il y a différents termes qui existent. Chez nous, on parle de gestion harmonique en se disant qu'on essaie de trouver un équilibre entre la pratique des usagers, parce que nos espaces verts sont publics. Donc, la priorité, c'est déjà l'ouverture au public. Mais malgré ça, on essaie de trouver un équilibre pour essayer de préserver les écosystèmes et de se dire, l'équilibre entre les deux, c'est cette gestion pour essayer de, en gros, que chacun y trouve son compte. Donc là, des exemples de ce type de gestion, le fait de se dire, pour un parc, il y a différents secteurs en fonction de l'utilité que va avoir l'usager. Il y a des espaces qui sont plus récréatifs, où vous allez avoir les jeux d'enfants, des espaces qui sont plus forestiers, où les cheminements sont faits d'une telle façon qu'on invite l'usager à aller dans tel espace et pas trop au niveau des sous-bois pour plus préserver ces espaces-là. Enfin voilà, il y a toute une gestion qui est vraiment faite particulière. Et puis, en dehors de ces parcs, l'idée, c'est de se dire comment on fait aussi pour avoir une gestion qui soit plus écologique. sur tout ce qui est à bord de voirie, par exemple. Donc en se disant, on diversifie les milieux, on diversifie les strates végétales, on essaye d'apporter vraiment des différents sites de gîtes ou de couverts, en gros, pour les animaux, pour permettre leur présence et leur bon état de santé. Donc là, c'est un exemple de voirie, en fait, qui a été aménagée de façon un peu plus naturelle, où on fait un système de tonte pour montrer aux gens sur leur système, sur leur espace piétonnier et cyclable, comme quoi y a quand même une gestion qui est là, même si on essaie d'avoir un côté très naturel, on montre qu'on a, c'est pas de la non-gestion, quoi. Enfin, c'est de la gestion, mais qui est volontaire. Et on a un grand projet départemental qui est le chemin des parcs. Donc l'idée, c'est de relier les différents sites de nature, les grands pôles verts, par de la liaison douce. Et quand cela est possible, de pouvoir introduire le concept de trame éco-paysagère et donc de corridor écologique. Donc ça, c'est pas possible partout parce qu'il y a des contraintes de voirie qui font que l'espace n'est pas adéquat pour permettre d'avoir de la strate végétale, d'avoir des arbres ou du buisson, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, quand on peut, on essaie de suivre la progression de ces aménagements et de proposer des choses pour intégrer de la nature dans ces projets. Ensuite, par rapport à cette base de données écologique, l'idée, c'est de pouvoir faire des analyses et de pouvoir faire des portées à connaissance auprès des gens, donc qui ne sont pas des écologues de formation, mais pouvoir leur dire, sur votre espace, il y a un enjeu sur telle et telle espèce ou par type d'habitat, parce que on s'est rendu compte qu'on avait peut-être une carence sur telle espèce, et du coup, il y a un enjeu fort pour préserver ce type de milieu. Et vous pouvez faire quelque chose. Donc après, nous, on n'est que conseil. On peut pas imposer des choses. Donc on produit de la matière, on fournit cette matière, et après, à voir si les choses sont intégrées dans les plans locaux d'urbanisme ou autres documents réglementaires. Mais voilà. En tout cas, on essaye d'inciter à avoir ce type d'action. Et en partenariat avec les organismes de recherche, l'idée aussi, c'est de pouvoir vraiment donner des choses un peu plus concrètes que des recommandations générales pour essayer, au cas par cas, de dire, on va rentrer vraiment dans le dossier, on va essayer de faire une expertise pour pouvoir vraiment donner des pistes de réflexion. Ensuite, sur la partie plus médiation-communication, il y a déjà tous les inventaires qu'on mène. L'idée, c'est quand même de valoriser tout ce travail-là qui a été sur plusieurs années, qui a nécessité un certain financement quand même, c'est pas rien. Donc l'idée, c'est quand même de faire des ouvrages qui sont en plus à portée scientifique, parce que c'est pas tout un chacun qui va se trimballer avec la flore sauvage qui doit faire plusieurs kilos lors de ses promenades. Et puis aussi, donc là, qui est plus récent, c'est l'Atlas des amphibiens reptiles de la Seine-Saint-Denis. Donc il est sorti l'an dernier, qui montre vraiment, du coup, l'inventaire exhaustif des espèces qu'on a pu trouver sur ces groupes-là. Et un petit recueil sur la gestion harmonique dans les parcs. Donc c'est 15 ans d'expérience sur ce type de gestion. Et ensuite, on fait des périodiques. Donc là, l'idée, c'est tous les ans de faire un peu un recueil d'expérience de ce qui est fait en Seine-Saint-Denis sur la biodiversité urbaine par les différents partenaires, donc que ce soit les villes, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les agents du département. Enfin, voilà. L'idée, c'est les associations. Qui veut, on leur donne un outil de valorisation de leur projet. Et puis, surtout, quelles actions on mène envers les habitants de la Seine-Saint-Denis pour les rendre, notre idée, c'est vraiment de les rendre acteurs qui se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses pour améliorer leur environnement. Et en fait, on a conçu un peu ce concept d'observateur. Et l'idée, c'est de faire des appels à observation sur certaines espèces qui nous intéressent et de dire, est-ce que vous les avez vues? Quand est-ce que vous les avez vues? Et en fait, les gens nous renvoient les données en disant, tel jour, à tel endroit, j'ai vu telle espèce. Donc ça peut être fait sur toutes les espèces qu'elles voient. Moi, j'ai des gens qui me font un rapport toutes les semaines en disant, je suis allée à tel endroit et j'ai vu mon listing d'espèces que j'ai vues. Et puis, nous aussi, on a cette valorisation par rapport à certaines espèces en jeu, style la perruche à collier, qui est une espèce exotique, sur lesquelles on a surtout des carences, par exemple, parce qu'on sait qu'elles sont là, on sait que pour le moment, on n'a pas de preuves de leur impact sur la biodiversité, sur les autres espèces d'oiseaux, par exemple, cavernicoles. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu de surveillance de ces espèces en disant comment elles sont réparties, un peu leur répartition géographique sur le territoire. Et aussi tout ce qui est flore invasive, où là aussi, c'est intéressant de voir comment ça progresse. Et par rapport à ce projet-là, l'idée, c'est d'avoir un moment phare pendant l'année qui se trouve au mois de mai, où là, en fait, on fait vraiment de l'animation auprès du grand public avec un système de programme où, en fait, on propose aux gens d'aller faire un peu d'observation. Donc ça, c'est on relaie en gros les protocoles Viginature. Donc c'est des protocoles qui sont faits de sciences participatives par le Muséum national d'histoire naturelle et qui sont faits, en gros, vraiment pour tous les publics. Donc vraiment, tout, quand on est habitant, on a possibilité, on a une petite fiche avec l'observation des papillons, par exemple, et on va regarder dans son jardin pendant un mois ou pendant sur plusieurs mois d'affilée quelle espèce on voit dans son jardin. Et ces données-là remontent au niveau national et permettent d'avoir comme ça une évaluation de la répartition de ces espèces et de faire un lien aussi par rapport à tout ce qui est changement global, changement climatique, de voir comment les répartitions peuvent évoluer. Donc c'est aussi le fait de se dire, nous, à notre échelle, une personne, elle fait partie d'un réseau de plein de gens et petit à petit, toutes les choses s'imbriquent, quoi. Donc nous, on est, enfin, il y a au niveau national, au niveau régional, le département, les villes, l'habitant, enfin voilà, tout est en réseau, quoi, comme la biodiversité. Voilà, donc là, en gros, sur l'an dernier, c'était la première fois où on a fait ce projet des 24 heures pour la biodiversité, et donc on l'avait surtout axé sur les sites de nature, donc les parcs, et où on avait fait un certain nombre d'animations. Et on avait inclus aussi le côté artistique. Le fait de dire, c'est pas juste de l'observation naturaliste, mais c'est aussi d'essayer de dire comment les artistes voient la nature, qui donnent une définition, eux, qu'est-ce que la biodiversité en ville pour eux, et de pouvoir travailler avec les gens sur des ateliers nature en disant, quelle est ma perception, comment je vois les choses. Les parcs urbains, c'est quand même un super site pour faire de l'éducation relative à l'environnement, donc autant pour les scolaires que pour le grand public, donc scolaire la semaine, les week-ends le grand public. Et là, je voulais faire un petit focus par rapport à l'animal dans la ville et repartir un petit peu des grandes causes de l'extinction, des pertes de biodiversité, de l'érosion, de ce qu'on peut dire. En gros, on est conscient que c'est vraiment tout ce qui est destruction, fragmentation des habitats qui fait que les espèces, du coup, elles ne retrouvent plus trop d'espace pour pouvoir se développer et du coup, perte des populations. Il y a aussi tout le côté invasion par des espèces venues d'ailleurs qui prennent la place des espèces qui sont présentes parce qu'elles ont une meilleure compétitivité ou elles arrivent des fois avec des parasites sur lesquels les espèces présentes elles peuvent pas se défendre parce qu'elles ont pas l'adaptation pour se défendre. Il y a toute la partie de la surexploitation des ressources naturelles. Donc ça, c'est pas nous, on travaille pas trop dessus. Et puis toute la partie changement global avec des suivis de population qui permettent d'évaluer ce changement. Donc nous, par rapport à ça, on a fait on fait plusieurs études. Et par exemple, on a fait un recensement sur la tortue de Floride. Donc cette tortue, en gros, qui a été vendue pendant plusieurs années dans les animaleries et où les gens, plus l'aquarium était gros, plus la tortue grossissait. Donc au bout d'un moment, les gens, ils la trouvaient trop grosse et ils voulaient s'en débarrasser. Ils se disaient, si elle est plus bien dans mon aquarium, je vais la mettre dehors, dans la nature, comme ça, elle sera mieux. Et puis au moins, je fais une bonne action, je la relâche, quoi. Et puis finalement, c'était pas forcément une bonne action parce qu'elle mange quand même beaucoup de choses. Et voilà. Donc en Île-de-France, elle se reproduit pas encore parce qu'elle est pas dans la température est pas assez haute pour pouvoir se reproduire. Donc elle peut avoir des œufs, mais en gros, les œufs sont pas viables, quoi. Donc ça permet aussi de limiter l'expansion de cette espèce-là. Mais n'empêche qu'on arrive quand même avec des quantités d'individus qui sont assez importants. Et donc il y a eu une étude faite avec le CNRS pendant plusieurs années pour essayer d'évaluer l'impact de cette espèce par rapport à tous les amphibiens au milieu aquatique. Donc il n'y a pas eu de choses vraiment avérées parce que, point de vue scientifique, on a du mal à être soit noir, soit vraiment blanc. Et on se dit, il y a potentiellement, il peut y avoir un risque. Après, voilà. Donc c'est vraiment des espèces à surveiller, au moins savoir comment elles se... Au moins avoir une communication auprès des habitants en leur disant la solution de les relâcher dans la nature, c'est pas la bonne solution, quoi. Après, on a des espèces envahissantes qui sont chez nous aussi, mais qui ont un impact aussi sur la biodiversité, les lapins, les ragondins. Les ragondins qui vont détruire toutes les berges en creusant des trous et du coup qui vont complètement dégrader les berges des milieux humides. Et puis le lapin qui va se nourrir essentiellement des petites plantules ou des jeunes arbres que vous allez planter. Et puis en gros, vous allez dépenser de l'argent à planter plein d'arbres. Et puis ils arrivent derrière, ils mangent tout. Surtout, ils se reproduisent très très vite. Et en termes de régulation, c'est une grosse question. Donc, on a essayé de se rapprocher de l'ONCFS, donc l'Office national pour tout ce qui est chasse et faune sauvage. Mais en gros, eux, leur projet, c'est plutôt de... C'est dans l'autre sens. C'est de plutôt d'avoir le plus possible de lapins parce qu'ils sont en relation avec les chasseurs et le but, c'est d'avoir du lapin pour les chasseurs. Alors nous, en termes de régulation, ben, on a un peu de mal de trouver un partenariat pour avoir des choses. Donc, en fait, on fait des... On fait des comptages la nuit et puis derrière avec des systèmes de, avec les furets, en gros, ils vont chercher dans les tanières des lapins pour essayer de récupérer les lapins pour faire de la reprise et ensuite bah, les lapins sont exportés ailleurs où ils sont intéressants pour les chasseurs en gros, pour refaire des populations ailleurs. Là sur cette année, en fait, sur tout ce qui est parasites et maladies, il y a un champignon qui s'appelle chydridiomycose. Et en fait, ce champignon, il est la cause de la disparition de pas mal d'amphibiens en France et dans le monde. Et l'idée, c'est de se rapprocher du laboratoire régional de suivi de la faune sauvage pour essayer d'avoir un peu une information sur la prévalence de ce champignon, voir comment il se développe et voir si, en gros, en Seine-Saint-Denis, on n'en risque pas par rapport à cette maladie. Parce que vraiment, s'il apparaît, il décimine tout, vous n'avez plus rien, quoi. Donc il y a un enjeu par rapport à ça parce qu'on a très peu de zones humides et on se rend compte que s'il y a déjà peu d'habitats et qu'en plus les espèces ont un risque de maladie, on n'aura vraiment plus grand-chose. On travaille aussi sur des zoonoses, donc là c'est l'échinococcose alvéolaire, c'est une maladie qui est transmissible par le renard, qui peut provoquer après des problèmes pulmonaires, et ça peut aller jusqu'à la mort. Voilà, bah, après on essaie d'avoir aussi une communication qui n'est pas trop alarmiste non plus, hein. C'est des cas qui ne sont pas super fréquents non plus. Hein. Mais l'idée c'est d'avoir quand même une information sur la prévalence de la maladie. Donc il y a des plans qui sont faits au niveau national de prélèvement de renards, parce qu'en gros vous les prélevez, vous les tuez, vous regardez ce qu'il y a dans leur estomac et vous regardez s'il y a la maladie ou pas, quoi. En Seine-Saint-Denis, on n'a pas cette politique-là. L'idée, c'est pas d'aller faire du prélèvement et de tuer des renards. C'est plutôt de se dire, bah, quand on en trouve un mort, on le récupère, on l'envoie au laboratoire, le vétérinaire fait son autopsie et on voit s'il y a présence ou pas de la maladie. Et après, on voit s'il y a besoin d'avoir une communication particulière ou une gestion particulière. Et puis après, il y a tout le suivi de certaines populations à enjeu, de se dire, bah, voilà, ces espèces-là, elles sont quand même importante pour nous. Enfin, vous avez le crapaud calamite, qui est une espèce. Enfin, tout ce qui est amphibien reptile, tout est pratiquement protégé. Hein. Donc, il y a vraiment un enjeu fort sur ces espèces-là. Et le crapaud calamite, en gros, il y a deux grandes populations en Île-de-France. Il y en a une chez nous dans un de nos parcs. Donc, on a vraiment un enjeu à essayer de préserver ces espèces-là. On a une population à l'heure actuelle qui a été estimée à 3 000 individus. Donc, c'est une bonne population. Donc, a priori, voilà, si on a les bons aménagements, qu'ils ont le bon espace, ils ne devraient pas péricliter, quoi. Mais voilà, on a cet enjeu-là fort parce que si jamais on détruit les mares, si on a une urbanisation trop intense, ben, peut-être qu'ils ne trouveront plus l'espace pour se nourrir et se reproduire, et derrière, ben, ils vont disparaître. Le martin pêcheur, qui est vraiment une espèce inféodée au milieu humide et aux berges. Des plaques à reptiles. Donc en gros, c'est une grosse plaque, c'est du PVC, c'est des produits qui sont recyclés du plastique. C'est des grosses plaques qu'on pose au sol, et en fait, les reptiles vont aller se cacher dessous, parce que c'est un lieu où, en gros, le soleil va taper fort, et ça va être un bon endroit chaud pour eux. Et c'est un moyen aussi d'avoir une zone refuge pour ces espèces-là. Et ça permet pour nous, de temps en temps, d'aller les soulever, de voir ce qu'il y a dessous, et pouvoir faire comme ça aussi des inventaires. Donc c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait quand même un grand historique par rapport aux zones maraîchères, où en gros, la Seine-Saint-Denis, ben, voilà, elle servait aussi de lieu de production maraîchère pour nourrir les Parisiens. Donc il y avait vraiment une culture du cheval aussi. Et là, l'idée, c'était de continuer un petit peu tout ça. Donc je crois qu'on a 7 chevaux de trait au sein du département. Et on a des utilisations multiples. Hein. Enfin, l'idée, c'est d'avoir autant une utilisation pour la gestion, mais aussi en termes d'éducation à l'environnement et de parcours comme ça, de découverte. Et on a des brigades équestres. Donc à l'heure actuelle, on est en partenariat avec la police nationale et bientôt avec la garde républicaine. Je crois que là, il y a des choses qui sont en train de se monter. Donc par exemple, le cheval a vraiment servi par rapport à la tempête de 99, où là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont tombés. Et ils nous ont vraiment aidés à nettoyer ces milieux-là pour les sécuriser. Et où en gros, bah, les tracteurs, tous ces outils-là pouvaient pas aller. Ça nous sert aussi pour la fauche dans les milieux qui sont fragiles, où en gros, ben, si vous venez avec un tracteur, ben, c'est beaucoup trop lourd, ça va créer des ornières et puis vous n'allez pas pouvoir ressortir avec votre tracteur et surtout vous allez tasser le milieu, donc vous allez abîmer le sol. Donc là, le cheval est vraiment très très utile. Et puis à côté de ça, bah voilà, il y a des animations qui sont faites avec les enfants pour montrer l'utilité du cheval. Et puis aussi sur la partie balade, où bah il y a comme ça des petits des hippomobiles qui ont été créés. Et là, on est en train de créer le Parité 2. Donc Parité 2, en gros, c'est une hippomobile qui a destination des personnes à mobilité réduite. Donc pour que vraiment tout public puisse se promener dans les parcs et que même les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent avoir une possibilité de se promener dans ces espaces-là. Et je crois que c'est tout. Voilà. Je vous remercie de votre attention.